Bon, ben, je vous remercie d'être resté aussi nombreux pour cette rencontre, de vous intéresser au dessin de presse aussi. Et je remercie aussi la BPI qui continue à faire aimer le dessin avec des expositions qui ont commencé il y a longtemps, comme celle d'André François, de Willem, de Rezer, de Gourmelin. Il y a eu une exposition de trait de justice aussi sur les dessins dans les tribunaux. Et en ce moment, l'exposition Claire Bretéché, que vous pouvez aller voir et je crois qu'elle dure jusqu'au mois de février encore. Donc la BPI s'intéresse beaucoup au dessin de presse, fait de très belles expos et ce débat est dans la continuité de ce qu'elle fait depuis des années. Alors, je vais lire mes textes, ne vous étonnez pas, mais je préfère être sûr de ce que je dis. Voilà. Alors, je voulais faire un petit préambule quand même, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur le sens de cette rencontre. Je tiens à préciser que vous n'allez pas entendre parler de fantassins de la démocratie ou de héros de la liberté d'expression, mais d'un métier, de son cadre d'expression, la presse, de son avenir. Les dessinateurs, par leur métier, participent, comme tout citoyen qui se respecte, à la vie politique, sociale, culturelle de la société, pas plus, pas moins. C'était le cas des dessinateurs Cabu, Wolinski, Honoré, Sharp, Tignous, mais c'est aussi le cas de dizaines de dessinateurs qui continue à exercer ce métier avec de plus en plus de difficultés, ce dont nous allons parler ce soir. Ce qui est frappant, au-delà de l'émotion provoquée par la violence de l'attentat à Charlie Hebdo, c'est que les médias, si prompts à parler de ces morts et de ces conséquences, oublient souvent, quelquefois, de parler de leur vie, de leur talent, de leur travail et de leur créativité, de leur manière de dessiner aussi. C'est pourtant ça qui fait la qualité du travail des personnes disparues, et de celles qui sont encore vivantes, parce qu'il en reste. En parler comme nous allons le faire, c'est permettre de mieux connaître les dessinateurs, apprendre à regarder leur travail. C'est le meilleur hommage que l'on peut rendre aux 5 dessinateurs de Charlie Hebdo disparus et à tous ceux qui continuent à dessiner. Je vais vous présenter les intervenants, rapidement, parce qu'ils ont des titres incroyables. Donc, en bout de rang, il y a Christian Delporte. Alors, attention, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles Saint-Quentin-Yvelines, spécialiste d'histoire des médias, de l'image, notamment du dessin de presse et de la communication. Vous avez dû le voir sur des tas de médias parce qu'il est très sollicité pour parler chaque fois qu'il y a un problème de la presse. Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet, sur le dessin de presse et sur la presse en général, oui. A dernièrement participé à l'ouvrage collectif « L'esprit Charlie », « Les médias à l'épreuve », publié par Le Mieux, en librairie le 18 janvier à peu près. Voilà, la semaine prochaine. Bon. Il n'est pas encore paru. Donc vous avez un scoop. Et en ce moment, il prépare avec le dessinateur Terreur Graphique, qui travaille avec Libération, une BD sur la communication politique qui va paraître aux éditions Lombard. Et il est directeur de la revue « Le temps des médias ». J'ai rien oublié ? C'est bien, quelque chose à rajouter. Bon, à côté de moi, on a Thibaut Soulcier. Alors, Thibaut Soulcier, je lui avais demandé une note pour m'expliquer qui il était, ce qu'il faisait, etc. Je ne l'ai toujours pas reçu. Par contre, il m'a écrit une note pour me raconter qui était Maël Nonet, que je vous lirai tout à l'heure. Bon, alors, Soulcier, parce qu'on ne donne pas les prénoms dans le dessin de presse, c'est mieux Soulcier, Wolinski. Soulcier est ce qu'on appelle dans cette profession un jeune dessinateur, ou une profession où, sauf massacre, on vit assez vieux quand même. Par exemple, je pourrais citer Ciné, qui a 87 ans et qui dessine encore, et qui a encore un journal qui s'appelle Ciné Mensuel. Wolinski avait près de 80 ans, enfin... Alors Soulcier, qui est ici présent, collabore régulièrement à de nombreux titres, Télérama, la revue dessinée, L'Équipe, d'autres titres ?
Marianne.
Et on peut voir aussi ses dessins dans l'émission le 28 minutes d'Arte. Voilà. Et bientôt dans une newsletter sur l'économie qui va être publiée par Le Monde, où il va faire un dessin quotidien sur le... Alors, pour Maël Nonet, qui est au centre de notre... Là, c'est Thibaut Soulcier qui a écrit le texte, donc je vais le lire. Alors, Maël Nonnet est un entrepreneur, excusez-moi, du côté clair de la satire. Il y a 5 ans, il a su fédérer les énergies autour du projet Foutrac, Zélium, avant de s'en retirer il y a quelques mois, le journal volant désormais de ses propres ailes. Maël préfère la gestion du journal à la rédaction en chef, gestion sans laquelle, selon lui, le journal ne peut exister. Fin communicant, il est rodé aux arcanes du web, des plateformes participatives de financement, des communiqués de presse, des imprimeurs et de la distribution. C'est un redoutable utilisateur de tableurs. C'est bien ça. Son énergie pétillante et sa vision claire sont un atout pour tout projet sérieux. Devis sur demande. Voilà. Alors ça, c'est un texte que Thibaut Soultier m'a fait passer ce matin, parce que moi, je n'avais strictement rien à dire sur Maël Nonnet. Voilà. Pour me présenter très, très rapidement, moi, je suis François Forcadell. Je m'intéresse au dessin de presse depuis beaucoup d'années. Et... au travers d'une association qui s'appelle Un bon dessin vaut mieux qu'un discours, de diverses manifestations, de journaux créés, de livres de dessinateurs publiés, et depuis 2006, un blog fait d'images, voilà, qu'on peut lire tous les jours. Voilà pour les présentations des quatre participants. Là, Christian Delporte va nous parler du cadre dans lequel existe le dessin de presse et comment il évolue à l'intérieur de ces contraintes. Il m'a promis 8 minutes. Donc, comme il est très sérieux... Pardon ? Voilà. Même 10, si c'est intéressant, il n'y a aucun problème. Avec Thibaut Soultier, nous allons évoquer le parcours d'un dessinateur pour arriver à exercer ce métier et essayer de voir comment il envisage son avenir. Parce que le thème de la réunion, comme la fin de la rencontre, est quand même l'avenir du dessin de presse. Le sien et celui de ses collègues. Je tiens à préciser que le parcours qu'il va décrire est pratiquement le même pour tous ses confrères et consoeurs. Il n'y a pas de différence, talent ou pas. Enfin, disons que quand on a du talent, ça va un peu plus vite et on le démontrera avec Soultier. Ouais, bon. Mais là, on commence. C'est pas fini. Voilà. Donc, avec Maël Nonnet, pardon, j'allais l'oublier, désolé, nous évoquerons les difficultés à créer des supports indépendants qui permettent la libre expression des dessinateurs. Parce qu'on le verra au cours de la rencontre, c'est très important que les dessinateurs aient des supports où ils puissent s'exprimer en toute liberté. Ils travaillent dans beaucoup de journaux, mais les supports où ils sont le plus libres et où le plus indépendants sont ceux qu'ils créent eux-mêmes. Comme Charlie Hebdo, Ciné Mensuel ou d'autres. Voilà. Je suis désolé, j'ai la parole, je vais continuer, parce qu'après ça va être plus rapide. Avant de donner la parole à Christian Delporte, je voudrais expliquer dans les grandes lignes ce qu'est un dessinateur de presse. Donc là, je vais être obligé de lire pour ne pas me tromper, parce qu'en plus, il y en a dans la salle, donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Alors, c'est quelqu'un qui a choisi de s'exprimer à travers le dessin et dans un cadre qui semble naturel, celui de la presse. Celle-ci, le rémunère pour son travail. Alors, c'est un métier formidable, car on peut le pratiquer chez soi, on s'intéresse à tout ce qui se passe à l'extérieur dans le monde, on pratique l'art du dessin, qui est une bonne chose, et pour certains, celui de la couleur. Il y a certains qui ne font pas que du noir et blanc, ils font un peu de couleur, comme Soultier et d'autres. On fait souvent rire, c'est le but quand même de ce métier, ou sourire quand le dessin n'est pas... Et on incite les gens à réfléchir à travers le dessin. Alors, ce serait un métier réellement formidable si les conditions d'exercice idéales accompagnaient ce travail. Pour les plus chanceux, ils sont salariés, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour un journal, qui les rémunère à la fin du mois, ils touchent un salaire... Les autres travaillent à ce qu'on appelle la pige, c'est les pigistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont payés que si le dessin est accepté et publié, ou commandé et publié. Parce que souvent, un dessin peut être commandé et ne pas être publié. Alors moi, je précise toujours ça parce que je trouve que c'est un peu présomptueux de parler de liberté d'expression. Car pour ce métier, effectivement, il y en a, mais cette expression est quand même filtrée par les rédactions. En dehors des journaux indépendants ou qui publient en général la plupart des dessins qu'on leur propose. Et ça aussi, ça sera l'objet de notre rencontre. On constate ces dernières années des difficultés de plus en plus grandissantes à l'exercice de ce métier. D'autant plus que contrairement aux photographes qui arrivent à se regrouper, à se fédérer et à avoir des syndicats, aucun syndicat ni groupement défend professionnellement les dessinateurs. Et pour une simple raison, c'est que c'est un métier très individualiste. Chacun travaille dans son coin. Et même dans les rédactions où il y a beaucoup de dessinateurs, c'est une réunion de pas mal d'individualités. Avant la crise de la presse, parce qu'il y a une crise de la presse depuis plusieurs années, attendez, je relis mes notes parce que. Alors, je vais lire. Avec la crise de la presse et le nombre de titres qui disparaissent, et surtout le peu d'engouement des rédactions pour ce type d'expression, parce qu'il faut se dire aussi que les journaux, pour eux, le dessin leur pose plus de problèmes. Je parle des journaux traditionnels, c'est-à-dire la grande presse, les journaux régionaux, qui ont souvent des dessinateurs attitrés. Le dessin leur pose plus de problèmes que d'attrait, parce qu'ils ont une ligne éditoriale très, très fine. Ils ne peuvent pas trop faire de provocations, ils ne peuvent pas partir sur des chemins de traverse, parce que sinon la rédaction est mal à l'aise, parce que ça fait perdre des lecteurs, ça fait perdre de la publicité. Souvent, les journaux, les annonceurs font pression sur les rédactions pour que le journal ne fasse pas de provocation. Mais ça, je pense que Christian Delporte vous en parlera tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour dire que dans ce métier, il y a plusieurs difficultés. Il y a des difficultés économiques, des difficultés de support, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de support, et des difficultés d'expression. C'est-à-dire qu'on parle de liberté pour des journaux comme Charlie Hebdo ou comme Zélium ou d'autres journaux, mais le reste de la presse, le dessin est quand même très, très encadré. Alors, excusez-moi, je continue, mais après, ça nous servira peut-être pour tout à l'heure. Dans le dessin de presse, il y a plusieurs types de dessinateurs. Alors, pour faire simple, il y a les illustrateurs à qui on demande un dessin pour accompagner un article, pour illustrer un article. La plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de photo pour l'illustrer. Ça veut dire aussi quelquefois que le sujet est un peu chiant et qu'on compte sur le dessin pour le rendre un peu attractif. C'est-à-dire que la photo ne suffit pas pour attirer l'attention sur le dessin. Il y a les dessinateurs de bande dessinée. Alors, leur travail est souvent très indépendant de l'actualité. C'est souvent de l'humour ou des histoires. En général, ils sont là pour faire marrer ou pour raconter des histoires. Vous avez un exemple dans le journal Flux Glacial, qui est l'exemple type de ce type de journaux. Ensuite, il y a les dessinateurs d'humour. Alors ça, c'est un genre qui a connu son heure de gloire dans les années 60-70. Mais auquel la presse n'accorde plus d'importance, parce qu'une page d'humour par rapport à une page de publicité, ça rapporte pas beaucoup. Donc, au fil des ans, les journaux ont supprimé toutes les pages d'humour. Il y a plus que Paris Match ou des fois Le Figaro qui a une page entière dédiée à un dessinateur. Dans le Paris Match, il y a encore Sampé. Je pense plus pour très longtemps. Et c'est dommage parce que le dessin d'humour est une bonne école graphique et de concision pour les dessinateurs, parce qu'on doit exprimer une idée avec très très peu d'éléments. Et c'est une école qu'ont pratiqué des dessinateurs comme Cabu, GB, Wolinski, Ciné, qui viennent tous du dessin d'humour et qui après, avec ce savoir-faire, sont passés au dessin d'actualité. La dernière catégorie, c'est celle qui reste la plus vivante entre guillemets, et la plus visible, c'est celle des dessinateurs sur l'actualité, dit dessinateurs de presse pour une appellation globale, ou caricaturistes aussi, parce qu'on n'arrive pas à trouver un terme. Alors, des passerelles existent entre les différents genres. Il y a des dessinateurs qui maîtrisent aussi bien l'art de la caricature que celui du reportage, qui est une sorte de BD, ou l'actualité. Pour les dessinateurs de BD, mais les dessinateurs de BD souvent s'intéressent moins à la bande dessinée parce que le rythme de création de la BD est plus sur le temps, sur la longueur. Et en général, ils prennent plus de temps pour faire leur BD que pour réagir à l'actualité. Donc le dessin d'actualité est vraiment un métier spécifique. Alors, c'est presque fini, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, parmi les compétences utiles pour faire du dessin de presse, on pourrait dire qu'il y a la curiosité, j'en ai déjà parlé, parce qu'il faut s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde, avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est-à-dire, si on n'est pas très ouvert sur les choses qui se passent, on devient dessinateur militant, et du coup, ça restreint un peu l'humour que pratique. Avoir des choses à dire. Ça, c'est très important parce que là, en ce moment, on voit une flopée de dessinateurs qui dessinent effectivement, mais qui n'ont strictement rien à dire. Mais bon, ça viendra peut-être. Et au risque de vous étonner, on n'est pas forcé de savoir dessiner. C'est un métier d'autodidacte et pour lequel il n'existe aucune école. Et heureusement, parce que ça serait un contresens, parce qu'on ne peut pas formater un état d'esprit qui prône l'insolence et la liberté de penser. Donc, voilà. Et chaque dessinateur doit se créer son propre vocabulaire graphique de manière à pouvoir communiquer au lecteur de façon claire et efficace. C'est vraiment un travail très très long, en plus, parce qu'il faut beaucoup d'années avant... Excusez-moi, je suis du midi. D'années avant de maîtriser ce vocabulaire. Et c'est vrai que souvent, un bon dessinateur arrive à maturité au bout de 10, 15 ans parce qu'il maîtrise tous les codes de communication de son métier. Voilà, j'ai presque fini. Donc maintenant, je vais donner la parole aux spécialistes. On a prévu une large part qui vous est réservée à la fin de leurs interventions, où vous pourrez les poser des questions et dire ce que vous avez envie de dire sur ce thème, qui est, je le précise, l'avenir du dessin de presse. Voilà, je passe la parole à Christian Delporte pour 9 minutes.
Merci, bonsoir à tous. Je voudrais juste avancer 3 remarques dans une brève mise en perspective qui a pour but essentiellement d'éclairer la situation d'aujourd'hui et je parlerai exclusivement de la caricature d'actualité. Ma première remarque, elle tient au cadre d'expression du dessinateur. D'un mot, il faut rappeler ce qu'est traditionnellement la caricature. Premièrement, la caricature, c'est une charge. Par nature, elle n'est pas consensuelle, mais transgressive, clivante et même parfois violente. Deuxièmement, la caricature, c'est une émotion. Elle doit être comprise du premier coup d'œil par la combinaison de l'idée, du dessin et éventuellement de la légende ou de la bulle. Troisièmement, la caricature, et François Forcadell y faisait allusion à l'instant, est une connivence. C'est cette connivence qui s'établit avec le lecteur par le partage d'un ensemble de codes liés à la tradition, aux habitudes, au partage des mêmes sensibilités, au regard commun porté sur la société. Autrement dit, elle ne s'adresse pas à tout le monde, mais à ceux qui font la démarche d'acheter le journal. Elle n'a pas vocation naturellement à l'universalité. Quatrièmement, la caricature, en raison même du lien qu'elle établit avec le lecteur, épouse une ligne éditoriale. Sénèpe, dans les années 30, ne proposait pas les mêmes dessins à Candide ou au très catholique Écho de Paris, et Cabu ne soumettait pas indifféremment ses caricatures à Charlie Hebdo ou au Canard enchaîné. Au-delà, quelles sont les limites pour le caricaturiste ? Elles sont multiples. Le degré de tolérance collective de la société et des groupes qui la composent. Le niveau d'acceptation des cibles, individus ou groupes. L'autocensure, notamment suscitée par l'effet produit ou supposé par le dessin sur les lecteurs. Mais reste que la République est un état de droit et que, dans ce cadre, c'est le législateur qui fixe les règles. Ici, pour la caricature, le socle est la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Une loi très libérale, mais qui prévoit la sanction des abus. Une loi qui a cependant pu s'infléchir sous le coup de la conjoncture politique. Alors, je ne vais pas revenir sur le contenu de la loi de 1881, je rappellerai juste 4 éléments. Premièrement, selon l'article 23... Dans le cas de poursuite, seul le directeur de publication est considéré comme responsable. le dessinateur, à l'instar du journaliste qu'il est, étant exclusivement désigné comme complice, ce qui ne le rend pas pour autant indemne de toute sanction judiciaire. Deuxièmement, la loi de 1881 est influencée par les lois de la République qui en modifient le contenu. Par exemple, les lois visant la discrimination, notamment la loi Guesso de 1990 ou très récemment la loi de novembre 2014 sur l'apologie du terrorisme, ont modifié le cadre de la loi de 1881. Troisièmement, la caricature a pu être concernée par d'autres lois, notamment celles visant à protéger la jeunesse, comme la loi de 1949 sur les publications destinées aux mineurs, qui interdit d'exposition en kiosque et de publicité les publications, je cite, « en raison de leur caractère licencieux ou pornographique », Harakiri en son temps le savait bien. Enfin, quatrièmement, il y a, au-delà de la loi elle-même, son interprétation pour la jurisprudence. On constate que cette jurisprudence a été, ces dernières années, favorable à l'humour et partant à la caricature. En janvier 1992, le tribunal de grande instance de Paris, dans un procès opposant le Front National à Guy Bedos, s'est penché sur, je cite, « les conditions de la bonne foi de l'humoriste poursuivi pour diffamation ». Or, qu'a-t-il dit ? Il a dit que, s'agissant du genre satirique et humoristique, la liberté d'expression, je cite, « autorisait un auteur à forcer le trait et à altérer la personnalité de celui qu'elle représente et qu'il existait donc un droit à l'irrespect et à l'insolence ». Ma deuxième remarque tient aux menaces juridiques qui pèsent sur les dessinateurs. Les pressions de l'État, qu'a bien connu un dessinateur comme Cabu dans les années 70, se sont apaisées dans les années 80. Du coup, ces dernières années, la menace sur les dessinateurs avait surtout deux origines. Les leaders d'extrême droite, et pour tout dire du Front National, et les associations religieuses. Et à cet égard, le cas de Charlie Hebdo est exemplaire. Première observation, depuis 1992, le journal a fait l'objet de près de 50 procès, pour des caricatures, mais aussi pour des textes. Ça nous fait un rythme quand même d'un procès tous les 6 mois. Ces procès se sont raréfiés, cependant, à partir de 2000. Deuxième observation, dans les 3/4 des cas, Charlie Hebdo a gagné ses procès. Troisième observation, les plaignants sont, outre des personnalités du FN, des journalistes aussi et des médias, mais en tête se trouvent d'abord les associations catholiques identitaires, comme la GRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française. 5 procès de 1994 à 1998. Reste que depuis 2008, et une assignation à la suite du numéro spécial pape, les recours des associations catholiques se sont considérablement raréfiés. En revanche, les actions des associations musulmanes se sont intensifiées. La pression s'est relâchée depuis l'attentat contre Charlie, mais les réactions à la suite de la couverture que vous avez sans doute vue cette semaine montrent que l'apaisement n'est peut-être que provisoire. Enfin, ma troisième remarque à ce stade tient à la place actuelle du dessin de presse. Il y a d'abord le statut de la caricature en France qui se fonde sur une histoire accompagnant les grands mouvements politiques et sociaux depuis la Révolution française. Sa reconnaissance dans notre pays tient sans doute à la tradition rabelaisienne et voltairienne du grotesque, du pamphlet, de la raillerie exercée sur les puissants ridicules, mais aussi ça tient au combat politique mené par la caricature. Sous la monarchie, on la surveillait. La République, elle, a toujours regardé son impertinence avec détachement, agacement souvent, mais aussi bienveillance, comme le signe de la bonne santé de la liberté d'expression. Mais ces derniers temps, a surgi un élément fort de déstabilisation. La démultiplication sous l'effet des nouvelles technologies de la caricature. Jamais sous la République, le dessin n'a été si peu présent dans la presse. Mais avec Internet et les réseaux sociaux, jamais sa circulation n'a été aussi dense, aussi rapide, aussi internationalisée. C'est l'une des sources des pressions qui, au-delà de l'attentat du 7 janvier, peuvent s'exercer sur elle aujourd'hui. Car cette circulation rompt le contrat de connivence qui relie le dessinateur à son lecteur. Et elle est source d'interprétations erronées, car elle décontextualise le dessin et dissout la cohérence des codes sur lesquels il repose. Je veux dire, l'image se trouve soudain comme dépouillée de ses codes. Enfin, depuis janvier 2015, je pense qu'on y reviendra, se pose la question de l'attitude face aux craintes ou à la peur que peuvent susciter les caricaturistes. Il n'y a pas de caricature consensuelle, je l'ai dit. Par définition, elle plaît aux uns et elle choque les autres. Il n'y a pas de caricature à l'encre tiède. La menace qui pèse sur elle n'est finalement pas d'ordre législatif. Le danger est que, face aux pressions, s'insinue dans les rédactions une forme insidieuse d'autocensure, début du renoncement à la liberté d'expression. Je rappellerai ce que déclarait Riss en juillet dernier. Il disait « Quelques-uns sont venus nous proposer des dessins, mais ce n'est pas évident, car il y a aussi des dessinateurs qui disent clairement qu'ils ont peur de dessiner pour Charlie Hebdo. » La peur, celle du dessinateur, mais aussi celle de son employeur, est source de prudence, et la prudence est source d'autocensure. La tentation pourrait être grande alors d'abandonner la tradition incisive de la caricature française pour adopter une approche plus anglo-saxonne. Il y a deux traditions qui s'opposent. Il y a une tradition française, il y a une tradition anglo-saxonne. C'est-à-dire une caricature plus politiquement correcte, où le dessinateur s'efforce de ne froisser aucune catégorie de la population. Bref, c'est ce qui est en jeu aussi aujourd'hui. C'est l'identité même du dessin de presse, fondée sur une longue tradition. Voilà, François.
Non, vous n'entendez pas. Bon, c'est pas grave. Je vais vous passer quelques dessins qui ont été faits après le 7 janvier. Auparavant, vous avez vu des dessins qui ont été faits aussi après le 7 janvier et qui sont parus dans Libération. Vous avez vu un dessin de Willem. Ça, c'est un dessin de deux lignes qui est paru après le 7 janvier. Il a été énormément repris dans pas mal de revues. Ça, c'est... Avec le premier anniversaire du 7 janvier, les dessinateurs ont été très sollicités, y compris dans la presse de province. Donc tout le monde avait quelque chose à dire. Et là, c'est ce qu'a dit Chonu, qui est un dessinateur de Ouest-France, je crois. Ouais. Voilà. Donc chacun est libre de penser ce qu'il veut, et du dessin, et de la déclaration du dessinateur. Moi, je trouve que Jean Moulin, c'est beaucoup quand même pour les dessinateurs. Ça, c'est un dessinateur fait par un Québécois. Voilà. Je vous laisse le temps de lire. Ils sont pas tous très drôles, mais vous allez vous rattraper avec sous le ciel. Si je vais trop vite, vous me le dites. Ça, c'est un dessin qui a été fait... après le 7 janvier aussi, où on a attribué beaucoup de responsabilités aux dessinateurs. C'est un dessin de Cambon. Ça, c'est un dessin d'Honoré, de Charlie Hebdo, qui a été fait, bien sûr, avant le 7 janvier. Willem. Tous ont essayé d'expliquer ce qu'ils ressentaient après l'attentat et de le traduire en dessin par des images évocatrices. Ça, c'est un dessin de Cabu, couverture d'un livre. Ça, c'est un dessin du dessinateur Chapat, Patrick Chapat, suisse, mais qui travaille beaucoup pour l'international. Ça, c'est un dessin beaucoup plus récent de Chimulus, qui, entre parenthèses, est le fils de Jacques Faisan, mais il ne suit pas tout à fait le même chemin. Donc, voilà. Donc, quand je parlais d'esprit critique, là, vous l'avez... Là, ce n'est pas vraiment sur Charlie, mais bon, il aurait pu. Voilà, c'est un dessin de Faujour, qui arrive quand même à dessiner sur des situations un peu dramatique. On revient au dessin de tout à l'heure. Et là, on va passer à M. Soulcier. Thibaut Soulcier, que vous pouvez peut-être reconnaître sur l'image. Donc, je vais lui demander de commenter ses dessins, parce que là, on va faire défiler 210 dessins, je crois. Et comme ça, vous pourrez avoir une approche de son travail. Et il pourra vous expliquer comment il travaille, ce qu'il fait, comment il trouve ses idées, s'il travaille à la plume, au pinceau, comment se passent les commandes.
Si ça vous intéresse. Voilà. Bonjour Paris. c'est un peu gênant de commenter ses propres dessins parce que finalement on est des dessinateurs et pas des commentateurs. Ça, c'est un dessin que j'ai fait pour CQFD. Je ne crois pas qu'il avait été retenu. C'est un journal marseillais de critique sociale et ils avaient fait tout un dossier sur la liberté d'expression, etc. Voilà, moi, des fois, je me sens un peu comme ça. Je me sens un peu complètement bouleversé par des injustices que je constate et un petit peu impuissant. Alors voilà, c'est tout. Moi, je suis un Zorro avec un crayon.
Okay. Un Zorro ?
Hein ? Ouais, le libérateur des opprimés, quoi, un truc.
Ouais. T'es pas obligé de commenter tous les dessins. Mais... Alors là, c'est une série de dessins vraiment sur la profession. Hein. C'est pas ce qu'il fait systématiquement, mais là, je les ai un peu regroupés parce que comme c'était le thème du débat, de la rencontre. Vous pouvez vous manifester dans la salle si vous avez des choses à dire ou si ça vous plaît pas. Hein.
Voilà, alors, par exemple, ça c'est un dessin pour Telarama.fr pour qui je travaille depuis assez longtemps, depuis 5-6 ans. Et alors Telarama.fr, c'est quand même Telarama, donc c'est sur Internet. Mais ils aiment bien quand il y a un rapport de loin à la culture ou de référence culturelle. Donc ça peut pas être... c'est rarement possible de faire aussi saignant que ce qu'on ferait dans un journal satirique plus libre. Donc j'essaye quand même de trouver le chemin. Voilà, c'est sur le même thème, c'est une autre version.
C'est l'actualité du moment. Hein, donc... Il a rajouté des mouches comme Plantu ou comme le faisait Tignos aussi. Constante.
Alors ça, c'est une esquisse, j'ai pas vraiment fini. Voilà, ça c'est pour faire du mauvais esprit.
Très mauvais esprit. Hein. Mmh. On voit pas à quoi il fait allusion, mais bon. Alors là, on va démarrer toute une série de dessins sur l'actualité qui correspondent à des sujets commandés, publiés, ou...
Alors ça, c'est un dessin pour Telarama.fr, justement, de la semaine dernière, fin de cette semaine. Voilà, la France encore plus forte. J'hésite à marquer à l'infini, parce que mon fils, il a 4 ans, il dit à l'infini. Je me suis dit que c'était un peu trop référencé comme humour.
Alors, il y a beaucoup de dessins sur Sarkozy, mais c'est pas de notre faute. Enfin, il y en a eu quelques-uns au départ sur Hollande, mais j'ai essayé de préserver quand même une certaine...
Ah, tu m'as sorti des vieux dessins quand même. Hein. Parce que je dessine plus du tout comme ça.
J'attends toujours de recevoir ceux que tu devais m'envoyer.
Et ils sont avec mon texte de présentation.
Alors, Soulcier est quand même spécialisé dans l'économie. C'est un sujet qui est assez rarement traité en dessin, disons, un peu humoristique. Et lui, il s'en tire pas trop mal. La preuve, par l'exemple. Alors, effectivement, c'est des vieux dessins, mais quand on les lit, on le voit pas. C'est pas, ils sont pas datés. Hein. Celui-là est un peu plus daté. Alors là, par exemple, tu peux expliquer comment tu surfes sur l'actualité pour trouver des idées. Là, parce qu'on voit pas l'actualité dont tu traites.
Non, voilà, oui, ouais. Mais au moment où le dessin est sorti, parce que c'est ça, il faut que le dessin, quand il est dans l'actu, il faut qu'il sorte au bon moment. S'il sort deux semaines après, parfois c'est trop tard. Et là, c'était au moment où Vals, au milieu, pour ceux qui connaissent, il est en Anakin Skywalker. C'est juste avant qu'il se transforme en Dark Vador.
Vals, c'est notre premier ministre. Enfin, je...
Oui. Et c'est là où on voit, là il faut avoir une double culture politique et Star Warsienne. Voilà, c'était, je sais plus quand est-ce que c'était au mois de décembre, juste avant que ça tombe, ça passe en état d'urgence permanent, déchéance de nationalité, tout ce qu'on veut.
Tout à l'heure, je parlais de vocabulaire pour vocabulaire graphique pour un dessinateur. Et c'est vrai que ce vocabulaire doit ça aussi s'adapter aux connaissances du lecteur. Donc là, j'ai fait une vanne sur Premier ministre, Vase Premier ministre. Mais ceux qui lisent les journaux connaissent peut-être Vase Premier ministre ou son visage. Mais les codes qu'utilisent les dessinateurs ne sont pas toujours compréhensibles pour le grand public. Et souvent, des dessins ne touchent pas beaucoup de monde parce que à l'intérieur il y a trop de codes de caricatures d'informations qui sont contenues dans le dessin, mais que les gens n'ont peut-être pas forcément quand ils découvrent le dessin, parce que tout le monde s'intéresse pas forcément à l'actualité.
Juste pour rebondir là, je sais pas si ça marche. Oui, juste pour rebondir là-dessus, vous en parliez aussi des réseaux sociaux, de Facebook, etc. C'est aussi quelque part un problème parce que dans la réception des dessins, les gens n'ont pas forcément les codes pour les lire correctement.
D'où le travail des dessinateurs d'essayer d'être plus pointus dans ce qu'ils utilisent dans leurs dessins. Bon. Alors souvent, ils pallient ce manque par du texte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de texte dans les dessins pour tout expliquer. Voilà.
Ça, c'était une semaine après le 13 novembre, je crois. Bon, c'est pour Télérama aussi.
Ouais, ça va. Là, c'est pour Télérama aussi ?
Mais je me demande, je crois que oui. Parfois, ils sont un peu joueurs. Hein.
Ouais. Tant que le dessin n'était pas très explicite non plus. Voyez.
Alors ça, c'est, ouais, c'est une des ficelles du dessin de presse, parce qu'en fait, dans le dessin de presse, on utilise beaucoup de techniques de langue française et de figures de style. Bon, là, j'ai inversé, enfin, j'ai justifié leur action en comparant avec... ils ont heurté ma sensibilité de croyant.
Non, celui-là est peut-être plus accessible, quoique...
Ah, c'est Jacouille la fripouille.
Ouais. Qui est dans quel film ?
Les Visiteurs. Après, voilà, moi c'est mon film de ma jeunesse que j'ai vu 437 fois. Mais,
celui qui ne l'a jamais vu ne peut pas comprendre le dessin. Mais ils sont rares, enfin, ils sont très rares.
Bah, j'espère, je le souhaite, parce que c'est quand même un bijou, quoi. Bon, il y en a qui sont plus La Grande Vadrouille, Le Père d'une ordure et tout, mais Les Visiteurs, c'est un film sous-coté. En plus, historiquement, assez juste, au niveau du Moyen-Âge et tout. Enfin, on pourrait en parler. J'espère qu'ils en ont parlé au débat d'avant. Ils en ont parlé au débat d'avant.
Allons-y. C'est un débat intéressant.
Alors en fait, de facture proprement parlée, Les Visiteurs, ça ressemble à beaucoup de films de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier. Ça ressemble à un film un peu moyen, comme Opération Cornet de Bif, par exemple.
Je vais être obligé de le couper. Mais dans un la moment, vérité. De toute façon, vous inquiétez pas. Bon allez, on va passer à notre dessin.
Alors là, je m'étais trouvé une super brosse sur Photoshop qui fait un effet aquarelle. C'est pour ceux que ça intéresse un peu.
Petit détail technique, très important.
Et t'as vu, on dirait qu'il y a vraiment du papier en dessous à droite.
Ouais.
C'est bien imité. Hein.
J'ai le droit de poser une question ?
Oui.
Je voudrais savoir, traditionnellement, la caricature est faite pour du papier journal. Mmh. Bon. Le fait de passer à l'écran, qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'on travaille différemment quand on travaille pour l'écran ou quand on travaille pour le papier ?
Alors, on ne travaille pas... oui, il y a trois choses qui changent. La première, c'est l'immédiateté. Parce que, par exemple, je peux envoyer un dessin à Télérama à 19h qui sera diffusé le lendemain matin à 7h du matin. Donc, à moins de travailler pour un grand quotidien qui bouclerait très, très, très tard, si ça m'arrive à l'équipe aussi, si je l'envoie avant minuit, il passe le lendemain matin, donc ça marche aussi. Mais c'est plus immédiat quand même que pour la presse magazine, par exemple dans Marianne, où on boucle le mardi soir pour un journal qui sort le vendredi. Ça change, on a droit à des couleurs qui n'existent pas dans l'impression. On a droit à des couleurs fluo. Une fois, j'ai fait un dessin avec, qui ressemblait à un jeu vidéo. J'ai mis du bleu fluo, du vert fluo. C'est des couleurs qu'on ne peut pas obtenir à l'impression. Et ensuite, c'est le... En fait, il n'y a pas de... C'est assez limité en largeur. C'est jamais vraiment très grand en large parce que les écrans sont panoramiques. En revanche, on peut jouer avec le scroll et on peut faire des dessins très, 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 très hauts. Et ça, on peut se permettre dans une newsletter, par exemple, pour laquelle je dessine pour Télérama, ou sur Twitter, ça se prête très bien à la verticalité. Donc on peut mettre plusieurs images à la suite, on peut faire qu'il se passe une chute ou un mouvement vertical, ça c'est possible. Ou dans le papier, finalement, le papier enferme beaucoup plus, encadre beaucoup plus le dessin. Voilà, monsieur.
Les techniques de reproduction font aussi que la couleur est de plus en plus employée. Par exemple, Charlie Hebdo, au départ, et même dans les lointaines années, était en noir et blanc, avec une couleur d'accompagnement. Maintenant, l'impression couleur coûte...
Attends. Et maintenant, l'impression couleur coûte...
Pardon ?
C'est toi le spécialiste de la fabrication des journaux.
Ça dépend des imprimeurs, je te réponds.
On l'a réveillé.
Alors, on va projeter un petit tableau Excel comparatif. Non, mais en fait, ça coûte le. Moi, je travaille pour CQFD, il m'avait dit, en fait, l'imprimeur nous fait la couleur au même prix que le noir et blanc.
Voilà, oui, ça revient quasiment même, c'est vrai en plus. Oui.
Ouais. Il n'y a que le canard enchaîné qui perpétue la tradition du dessin noir et blanc, alors qu'il pourrait passer très bien en couleur, mais ça changerait la forme du journal.
Je vais rebondir aussi par une autre question, une autre question par rapport à ce que vous disiez. Est-ce que le fait de faire un dessin pour l'écran, est-ce que toi, c'est une donnée que tu prends en compte quand tu dessines ? Parce que du coup, le dessin peut circuler aussi beaucoup plus rapidement sur le web, alors que quand tu fais un dessin pour un support papier, il reste figé sur le papier, quoi.
On oublie beaucoup plus facilement un dessin paru dans le papier. Mais bon, après, il y a des gens qui le prennent en photo, qui le mettent sur Twitter, ça tourne aussi, quoi. Le papier se retrouve dans l'écran. Je réfléchis pas vraiment au fait que, parce que c'est un dessin pour Internet... Je fais attention d'une manière générale avant de faire le dessin, mais ça change rien. J'essaie de faire un bon dessin, tout simplement.
Là, il va y avoir deux dessins spécialisés sur le sport parce que Soulcier travaille aussi pour l'équipe.
Alors, je travaille pour l'équipe, c'est un peu bizarre, c'est moins dangereux que de travailler pour la satire politique, sauf si on fait un dessin sur Zlatan ou quoi, ça peut toujours être dangereux. Et alors Platini. Alors ça, j'en ai vendu à l'équipe. Pardon, j'ai dessiné pour l'équipe sur Platini parce que c'est l'actualité sportive, quand même, président de l'UEFA, nanana. En parlant de jeux vidéo, FIFA 16, c'est un jeu vidéal. J'en ai... du coup, Télérama, ça les intéressait aussi parce que FIFA, c'est un des produits culturels de jeux vidéo les plus joués au monde. Et puis... c'était quoi le troisième ? Oui, et puis finalement, il y a cette histoire que Manuel Valls, le Premier ministre, est allé en avion voir un match de foot avec Michel. Michel, c'est intéressant parce que c'est un peu une figure de la France des années 80. Et là, c'est la déchéance totale, quoi. Voilà, il a un destin très, très français, on est tout déprimé.
Alors, est-ce que tu peux expliquer comment tu es rentré à l'équipe ? Parce qu'en fait, l'équipe avait un dessinateur, avait plusieurs dessinateurs depuis de longues années... qui leur coûtait très très cher, donc ils les ont virés carrément. Et le journal a lancé un concours pour recruter ces nouveaux dessinateurs. Et il se trouve que dans ce concours, il y a Soulcier, Lasserp, enfin d'autres dessinateurs ont été choisis et se relaient un ou deux jours par semaine pour travailler dans le... C'est-à-dire qu'avant, les dessinateurs dans les journaux étaient recrutés par des directeurs artistiques ou par la rédaction en chef qui leur confiait le rôle de dessinateur. Aujourd'hui, les journaux, de plus en plus, font appel soit à des agences, soit à des concours, comme c'était le cas pour l'équipe.
Oui, ils ont fait un concours et François, ici présent, m'envoie un email assez tard, sur le coup de 18h30-19h, et me dit...
C'est pas ça le but. Hein,
non, ouais. J'ai bien compris. Merci François. Et il m'envoie un email, il dit un concours ce soir, et on pouvait envoyer le dessin jusqu'à 23h, je crois. Bon, moi, le sport...
Tout le monde avait cette information. Hein.
Tout le monde avait cette information.
Ah oui, oui, tout le monde.
Bon, moi, j'étais le dernier à ne pas l'avoir.
Non, j'ai téléphoné à tout le monde.
Ah oui, 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 oui. Et du coup, j'ai fait un dessin. Bon, j'ai appelé mon père qui regarde un peu le sport. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, j'ai fait un dessin. Ils ont reçu beaucoup. Ils ont sélectionné 20 sur une page. Et pour les 5 favoris de la rédaction, alors les rédacteurs-chefs m'ont dit, on a fait un vote ouvert dans la rédaction, mais en fait, c'était pas démocratique parce que c'est nous qu'on choisit. Et on a été 5 à pouvoir publier dans le papier, donc ça, c'était bien. Ils nous ont testé un petit peu, et puis après, au bout de quelques mois, ils ont encore écrémé, on est resté 3. Et donc, j'ai 2 dessins par semaine maintenant, et mon collègue Gilles Lasserpe en a 2 aussi. Et il y en a un à Faro, et ils ont récemment fait une sorte de deuxième concours avec moins de réponses, et ils ont embauché Martin Wittberg, qui travaille pour les blogs du Monde, et qui a 2 dessins par semaine lui aussi.
Alors tout ça pour comparer avec la tradition qui fait que quand on veut faire ce métier, on a un carton à dessin, on a ses dessins à l'intérieur, on tape à la porte d'un journal, de la rédaction en chef, on dit voilà, je suis dessinateur, est-ce que mes dessins vous plaisent, est-ce que je peux travailler pour vous? Et tout ça maintenant, ça, c'est en train de changer. D'abord à cause d'Internet, parce que maintenant les dessinateurs envoient aux rédactions par mail leur dossier. Et maintenant, des concours pour trouver des dessinateurs, parce qu'il y a de moins en moins de directeurs artistiques qui peuvent choisir dans les journaux.
Oui, des journaux pour lesquels je travaille. J'ai travaillé pour eux pendant 2 ans avant de les rencontrer ou d'assister à un bouclage. Quoi. Alors, d'un côté, c'est pratique, parce que moi, même quand je suis en vacances, du moment que j'ai Internet et mon ordi, je peux envoyer un dessin. Ça ne m'empêche pas de me déplacer physiquement. Après, c'est vrai parfois, ça peut donner l'impression de ne pas être vraiment intégré à la rédaction et de faire partie du journal et d'être un bouche-trou qu'on met à cet endroit-là pour décorer. Quoi. Après, je ne crache pas dans la soupe. L'équipe, j'adore travailler pour eux, ils sont super, je m'éclate. Et à propos d'en parler de... Voilà, je fais des dessins pour... Je m'adresse à des gens qui vont acheter un journal sportif, donc je ne vais pas faire des dessins anti-sport. Après, le monde du sport, il est vaste. On ne parle pas que des résultats.
Comme le prouve ce dessin, il ne fait pas des dessins anti-sport.
Ouais, non, pour la revue dessinée. Ah.
C'est un dessin qui ne serait jamais passé dans l'équipe, ça.
Ben, je leur avais proposé, mais ils ne l'ont pas pris. Après, l'équipe, parfois, ils sont assez taquins aussi, quoi, comme Télérama, parfois, ils sont assez joueurs. Et alors, pour l'équipe, parfois... Moi, je travaille 2 jours par semaine pour eux, 2 après-midi par semaine. J'envoie des esquisses. J'envoie entre 6 et 8 esquisses à chaque fois que j'ai à faire un dessin. Et ils en choisissent une que je réalise. Après, moi, il me reste les esquisses après. Et ça arrive souvent qu'ils me disent... écoute, celui-là nous fait beaucoup rire, mais on n'est pas Charlie, on ne peut pas le passer. Mais ils m'ont dit, mais continue à nous proposer, parce que ton boulot, c'est de trouver, justement, la limite d'humour dans le dessin que nous, on pourrait passer. Donc moi... Nous, on essaye, avec mon collègue Gilles Lasserpe, on essaye, on pousse, des fois, on s'envoie, on dit « Ah, t'as vu celui-là ? » Ah, s'il l'avait pris. Mais ils ne le prennent pas.
C'est ce que raconte Plantu aussi. Il dit, dans les esquisses que je proposais, il y en avait souvent des très très drôles, mais ce n'était jamais celles qui étaient prises. Et lui, il les affichait dans le couloir du Monde. Et jusqu'au jour, il y a une esquisse un peu plus libre que les autres et passée. Et du coup, il y a certains dessins plus décontractés qui ont été publiés et qui ont donné d'ailleurs matière à procès, parce que, notamment avec le pape. Mais,
tu me compares à Plantu maintenant.
Ben oui. Ben, je peux raconter une anecdote avec Cabu alors aussi. Alors des fois, le dessin est vraiment reconnu dans des journaux qui en publient que des petits morceaux. C'est au moment du 7 janvier, pratiquement tous les journaux de la presse française, de Elle à L'Équipe, en passant par les Un Rock, ont publié du dessin de presse en une. L'Équipe, je crois, a publié plusieurs unes successives. Bon, autant dire que depuis le 7 janvier, ça ne s'est pas renouvelé. Quoi.
Si, j'en ai fait une le 1er janvier.
1er janvier 2016 ?
Oui. Et ce dessin, il date du, c'est pour l'équipe du lendemain, du 8 janvier. Et ils ont dit, voilà, nous, bon, alors ils se sentaient touchés par la barbarie française, etc. Mais ils ont dit, voilà, nous, on a des dessinateurs de presse depuis toujours, et on les aime et on les défend. Et voilà, donc on a fait chacun deux couvertures, ça a duré jusqu'au lundi d'après, je crois.
Voilà. Mais c'est vraiment de plus en plus rare que les journaux publient des dessins en couverture. Il faut vraiment rendre des hommages à d'autres dessinateurs pour que ça arrive. Parce que le dessin ne fait pas vendre en couverture. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Là, c'est toute une série de dessins que Soulcier avait fait pour parler de son métier, qui n'ont jamais été publiés. Qu'il revendique peut-être plus parce que ça date d'il y a plusieurs années. Mais je trouve qu'ils sont très, très proches de ce que peut ressentir un dessinateur. Là, il parle d'Aurel, qui est aussi un jeune dessinateur, qui travaille depuis quelques années maintenant à Politis, au Monde, et qui vient de faire son entrée au Canard Enchaîné. Parce qu'il se trouve qu'en ce moment, le Canard Enchaîné recrute pas mal de nouveaux dessinateurs. Parce qu'il y en a beaucoup d'anciens qui sont partis à la retraite. Et en même temps, ils veulent renouveler un peu l'image du journal. Mais ils ont beaucoup, beaucoup de mal. De la même manière que Charlie Hebdo a trouvé de nouvelles signatures. Mais en même temps, ils sont assez timorés dans les choix. Donc du coup, c'est normal qu'ils... Bon, là, c'est Sarkozy parce que c'est un vieux dessin. Hein. Il pourrait être refait avec Hollande, peut-être.
Hein ? Oui, oui. Bon.
Je vous laisse le temps de lire parce que tout à l'heure, je parlais de vocabulaire graphique. Souvent, pour que les lecteurs comprennent le dessin, les dessinateurs rajoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. C'est ce qu'on appelle, entre dessinateurs, les dessins de rédacteur. C'est-à-dire que tout est marqué dans le dessin, et comme ça, le rédacteur qui doit choisir le dessin comprend la signification du dessin. Mais ce n'est pas le cas, là.
Très bon dessin de ciné, je crois, avec Jésus crucifié, avec une valise avec marqué Jésus.
Ouais. Mais ça, c'est parce qu'il se moquait de Faizan, qui était un mauvais caricaturiste, et pour Faizan, pour... qu'on reconnaisse ces mauvaises caricatures, affubler toujours tous ces personnages d'une mallette avec le nom du personnage.
Alors je vous donne une astuce pour vous qui dessinez chez vous le soir. Maintenant on ne fait plus de valises dans le dessin de presse, maintenant on met des badges. Tu mets des badges avec marqué ouais, Jésus. Ouais.
Et donc pour se moquer de Faizan, Ciné avait fait la même chose avec Jésus-Christ et au pied de la croix il avait dessiné...
En fait, on le faisait déjà avant Faizan. Ça s'est beaucoup développé sous la 4e République parce que c'était une période où on changeait souvent de ministre. Donc le lecteur n'avait pas le temps de les reconnaître.
Très bonne remarque. Non, mais en plus, c'est vrai que je parlais de vocabulaire. La caricature, l'art de la caricature est aussi un des codes que doivent maîtriser le dessinateur. Certains dessinateurs le maîtrisent très bien. Cabu était le maître là-dedans. Tous les dessinateurs attendaient que Cabu dessine un nouveau personnage politique pour voir comment il l'avait croqué et comment il s'en tirait. Et après, bon, c'est pas qu'il l'imitait, mais bon, il voyait...
J'avais vu que Jean-Vincent Placé avait écrit au Canard en faisant remarquer quand même il avait bien maigri, qu'il faudrait mettre à jour les caricatures.
Ouais. Parce que il était dessiné par Guiraud, qui s'appelle Guiraud, et il le dessinait toujours gros, alors que ça faisait un an qu'il faisait des efforts pour maigrir. Et le Canard continuait à le dessiner avec ses 30 kilos en plus. Et bon, c'est le genre de choses à pas dire quand on est homme politique. Parce que après, ça s'est su. Et...
Ou surtout si on regrossit, comme François Hollande.
Allez, encore un peu de lecture. Alors ça, c'est les à côté du métier de dessinateur de presse. Il se trouve qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi maintenant, mais il y a de plus en plus de festivals... Il y a plus de manifestations autour du dessin de presse que de journaux qui publient du dessin de presse. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de... Mais c'est vrai que le dessinateur, là-dedans, il ne se trouve pas toujours à sa place. Alors là aussi, c'est un vieux dessin.
Vous arrivez à lire au moins ?
Ah ben, voilà. Il ne faut pas mettre de texte dans les dessins.
Le Graal, c'est de travailler au canard enchaîné. Voilà. Alors là, on voit un gars qui prie. Ah, super. Voilà, moi, je croyais qu'ils dormaient tous.
Bon, on va tout refaire.
Voilà, alors dans le dessin de presse, bien souvent, on dessine des choses avec des bonnes valeurs de fraternité, de redistribution de la richesse et de résistance à l'oppresseur. Dans les faits, on est tous chez nous en train de travailler en espérant prendre la place de l'autre. C'est assez individualiste.
Et même l'ambiance des fois entre les journaux. Dans le dernier livre de Denis Robert, par exemple, Mohican, il explique bien aussi toutes ces différentes chapelles qui existent dans la presse satirique. Et l'ambiance n'est pas forcément beau fixe non plus entre les différentes chapelles qui sont souvent référencées à un journal en particulier. Il y a le clan de Charlie Hebdo, le clan de Ciné Mensuel. Il n'y a pas toujours une très très bonne ambiance non plus entre les titres.
Oui, on parle de l'affaire Ciné... Bon, on va éviter parce que sinon le débat ne se terminera pas à 20h30. Non, mais les chapelles, ça vient du fait que les dessinateurs se regroupent pour faire un journal. Quand le journal est indépendant, il se regroupe en fonction des affinités de ce qu'il y a à dire dedans. Et souvent, il y a une concurrence. Et en plus, quand il y a des affaires qui tombent au milieu, comme l'affaire Ciné, ça crée des tensions parce que chacun choisit son camp. Mais c'est assez rare parce qu'il y a très peu de journaux, en fait, qui sont en concurrence sur la place en France. Il n'y a pas trop de journaux satiriques qui se tirent la bourre. C'est bon ? Vous arrivez à lire ? Un commentaire ? Là, vous avez un petit aperçu de tous les problèmes que peuvent rencontrer les dessinateurs dans leur métier. Et la dernière image est vraiment assez parlante, parce que de plus en plus de dessinateurs maintenant arrivent à travailler parce qu'ils cassent les prix. Et du coup, il y a toute une invasion de dessinateurs qu'on voit dans la presse et sur Internet et qui acceptent de travailler pour des conditions qui leur permettent même pas de vivre. Mais on les voit. Donc pour eux, ils pensent que ça fait partie du métier d'être vu. Alors que... Mais on en reparlera, je pense, avec vos questions.
C'est un peu comme les taxis, quoi.
Exactement. Libéralisation des... Celui-là, vous l'avez vu.
Oh, on l'avait déjà vu tout à l'heure.
On l'avait déjà vu, mais je vous le laisse. Ouais, c'est le même. C'est pour faire des petites césures. Voilà, là, c'est pour un peu parler des hommages, parce que là, en ce moment, on en a beaucoup. J'espère que ça va durer au-delà du 10, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du dessin de presse, on parle beaucoup des dessinateurs.
Moi, j'ai un peu l'impression que c'est comme la journée de la femme et la journée de... Voilà. Le 7 janvier, c'est la journée des dessinateurs de presse, quoi. Ah bah maintenant c'est le 7 janvier.
Maintenant ça va être le 7 janvier. Ouais. Ouais. Ça va être le 7 janvier, ouais. Ça c'est un dessin que Wolinski a fait dans le numéro spécial de Charlie Hebdo, C'est dur d'être aimé par des cons, qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Voilà. Et qui... malheureusement, le journal a été réellement brûlé ensuite. Ça, c'est l'hommage que le canard a rendu à son dessinateur Cabu, qui dessinait aussi à Charlie Hebdo. Il lui a consacré la première page, plus des articles. C'était assez rare dans le canard. Parce que même quand les dessinateurs du canard prennent leur retraite, en général, ils ont même pas droit à deux lignes dans le journal. Ils partent dans le silence le plus... Il date de l'an dernier, le 14 janvier 2015. Voilà, c'était une semaine. L'attentat de Charlie a eu lieu le 7 janvier. Et le temps qu'il...
C'était un mercredi, donc le journal...
C'était un mercredi, le journal Le Canard était déjà sorti, donc le temps qu'il prépare le suivant. Voilà. Et ça, alors là, on va passer à Maël Nonnet qui va nous parler de la presse.
Oui, tu as une question peut-être plus précise ou...
Alors, ce qu'on... ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au travail des dessinateurs, c'est que quand ils travaillent pour la presse traditionnelle, que ce soit la presse de province ou la presse nationale, ils travaillent en tant que salariés avec des obligations de répondre au cahier des charges du journal, à la ligne éditoriale du journal... Et du coup, les dessinateurs s'adaptent et ça ne pose pas de problème. Enfin, ils ont un métier, ils font tous les jours leurs dessins. Des fois, ça pose des petits problèmes parce que pour des questions politiques, si le journal est à droite, il ne faut pas trop taper sur les gens de droite. Si le journal est à gauche, il ne faut pas taper sur les gens de gauche, etc. Enfin, bref. Mais ils s'adaptent au journal et en général, ça pose pas de problème. Ils font une carrière de 30 ou 40 ans dans le même journal. Ils le quittent en bonne intelligence. C'est ce qu'a fait Ituria qui a travaillé pendant 30 ans à Sud-Ouest. C'est ce que fait Delestre à l'Est républicain. J'ai jamais entendu parler d'un dessin de Delestre censuré. Donc voilà, ça c'est une partie du métier. Après, il y a des journaux que créent les dessinateurs eux-mêmes pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir un peu déborder de leur cadre habituel. Ça a été le cas de Charlie Hebdo, qui est même le plus ancien, était un journal créé par des dessinateurs. Enfin, en tout cas, Cavana était un ancien dessinateur qui a commencé comme dessinateur. Choron n'était pas un dessinateur, mais il savait promouvoir le talent créatif des dessinateurs. Et ils ont créé l'hebdo Harakiri, qui faisait la suite du mensuel Harakiri mensuel, mais qui n'était qu'un journal d'humour. Ils ont fait l'hebdo Harakiri après mai 68, parce qu'ils se sont dit, il se passe plein de choses et tout, il faut absolument qu'on puisse parler de l'actualité chaque semaine. Ils ont créé l'hebdo Harakiri, qui est devenu ensuite Charlie Hebdo. C'était la première version de Charlie Hebdo. Dans cette version-là, il y avait beaucoup de dessinateurs. Il y avait Cabu, Willem, Wolinski, qui ont fait toute leur carrière de dessinateurs pamphlétaires, de caricaturistes là-dedans. Et ils avaient une totale liberté dans la mesure où c'était leur journal. C'est eux qui décidaient de ce qu'il y avait dans le journal, de la couverture, du thème abordé.
Et donc, je peux recontextualiser peut-être la création de Zélia,
voilà,
par exemple.
Et donc,
parce qu'à la fin de... Donc, il y a eu les Ciné Hebdo, qui a duré un an et demi, deux ans, je crois, de mémoire. Et après Ciné Hebdo, il y a eu un autre hebdomadaire qui est sorti, qui s'appelait La Mèche. Et en fait, Zélium s'est créé à l'occasion de la fin de La Mèche, en fait. La Mèche a duré le temps de 13 numéros, il me semble. Et donc, Zélium est un peu né aussi de la fin de cet hebdomadaire pour essayer de fédérer via un statut associatif en plus, hein, c'est vraiment dans la tradition de la presse associative, donc d'essayer de fédérer un maximum de bonne volonté pour recréer
Je vais être plus précis que toi, c'est que à Charlie Hebdo il y a eu un problème à un moment où il y a eu une scission, c'est-à-dire qu'un dessinateur comme Ciné a été viré parce que bon, il y avait un problème sur un article qu'il avait écrit. Il a été viré du journal, et pour se venger de cette injustice, ce qu'il considère comme une injustice, il a créé un autre titre qui a été Ciné Hebdo. Ciné Hebdo est parti a rassemblé une partie des dessinateurs qui n'étaient pas à Charlie Hebdo. Une partie des dessinateurs est restée à Charlie Hebdo, l'autre partie est partie à Ciné Hebdo. Ciné Hebdo s'est arrêté à un moment, au bout d'un an. Et c'est là où est arrivée la création de La Mèche, parce que les dessinateurs de Ciné Hebdo se sont retrouvés sans journal et ils ont décidé de créer un nouveau journal qui s'appelait La Mèche. où tu es intervenu ?
Sur le dernier numéro. Enfin, j'ai vraiment une participation très, très réduite sur la mèche. En fait, sur le dernier numéro, pour l'anecdote, parce que je crois que la maquettiste était partie avec femme et enfant, et surtout la maquette. Et du coup, il a fallu tout refaire en moins de 48 heures pour sortir le dernier numéro de la mèche.
Mais vous voyez, c'est que là, à chaque fois, la création du journal était suscitée par les dessinateurs pour avoir un nouveau support, pour pouvoir continuer à s'exprimer.
Voilà. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'est né Zélium, pour recréer un nouveau journal, un support dans lequel les dessinateurs pouvaient s'exprimer. Et donc le premier numéro est sorti en février 2011 et a connu une première période en kiosque sous le format journal papier, qui est une première formule qui a pu exister pendant un an et demi, deux ans, je crois. Et depuis un an, le journal est à nouveau en kiosque, mais cette fois-ci sous le format magazine. Donc c'est passé vraiment d'une presse rotative à vraiment une presse magazine. Donc c'est pas non plus dans le même rayonnage chez les marchands de journaux. Et donc voilà, donc c'est passé d'un journal, d'une ligne éditoriale volontairement bordélique et foutraque au début, puisque c'était l'objectif était vraiment de réunir et de se marrer en fait dans un projet qui rassemble un peu, comme j'ai tout à l'heure, les bonnes volontés, sachant que dans la presse associative, la plupart du temps, les gens ne sont pas payés, puisqu'on a déjà du mal à financer les imprimeurs. Donc c'est vraiment malheureusement du bénévolat assez récurrent, quoi.
Ouais. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que c'est du bénévolat, mais pour faire un journal en France, c'est assez relativement facile. Il suffit de réunir une équipe, de faire le journal, de faire la maquette, d'aller voir un imprimeur, de le faire imprimer, et après d'aller voir un distributeur. En France,
il y en a deux, il y a Prestalis et les...
Il y a Prestalis, qui MLP. Est le monopole, qui est les anciennes NMPP en France, qui date de la libération du siècle dernier. Et le deuxième
MLP, Messagerie Lyonnaise de Presse.
Voilà, Lyonnaise. Et donc on va les voir et on leur dit, voilà, on fait un journal, est-ce que vous êtes d'accord pour nous distribuer ? Le lendemain ou une semaine après, le journal est dans le kiosque, mais après il faut le vendre. C'est-à-dire qu'il faut faire de la publicité pour le vendre, il faut le faire connaître. Il suffit pas d'être dans les kiosques, parce que dans les kiosques, il y a je ne sais pas combien de titres présents chaque semaine.
3000.
Ouais.
Non, pas de journaux ici, mais au
total. Oui, au total.
Au total, un kiosque peut disposer d'à peu près 3000 titres.
Alors, ça veut dire que si faire un journal, c'est relativement facile, le faire exister dans le kiosque est un peu plus compliqué. Voilà, on arrive avec des Zélium qui arrivent. Donc, vous voyez, ça c'est un journal. Donc, imaginez ce journal perdu parmi 3000 autres journaux de tout genre, de magazines, avec les rayonnages et tout. Donc, voilà. Donc, faire un journal, c'est relativement facile.
Oui, enfin, le créer, c'est relativement. Enfin, il faut juste des gens.
Je ne parle pas que de Zélium, je parle d'un journal. Les démarches à faire.
C'est assez simple. Enfin, une fois qu'on a l'imprimeur et qu'on a la distribution qui est après organisée par les messageries, il suffit juste de sortir chaque nouveau numéro. Il est mis en vente dans les kiosques. Mmh. Et si les ventes sont bonnes, on publie les numéros d'après et ainsi de suite. Quoi. C'est, enfin, la mécanique est assez simple. Oui, oui. Oui, un dépôt légal. Enfin, il y a quelques démarches, mais enfin, c'est vraiment pas très très lourd d'un point de vue administratif, quoi. Ouais. Ouais.
Donc, Charlie Hebdo s'est monté comme ça, pareil. Enfin, sans trop de fonds au départ, parce que souvent les imprimeurs n'impriment pas gratuitement. Mais là, dans la mesure où ils sont arrivés avec pas mal de signatures, ils relançaient aussi le titre, parce que le titre s'était arrêté de 80 à 91. Et après, il est réapparu en 92, mais ils sont arrivés avec des signatures, donc ils faisaient plus ou moins confiance, le titre était connu, les signatures qui étaient dedans, c'était les signatures historiques, donc il y avait Volinsky, Cabu, qui ont permis de donner confiance à l'imprimeur, qui a imprimé 140 000 exemplaires enfin, du premier numéro, je crois, qui s'est vendu à peu près à ce niveau-là, ce qui a permis de financer les numéros suivants. Pareil, même histoire pour Ciné Hebdo. Le premier numéro s'est vendu autour de 120 000 exemplaires, qui a permis de financer les trois numéros qui ont suivi et a lancé la machine pour que le journal existe. Pour Zélium, je ne sais pas, il faudrait peut-être donner un micro
à Cesare Piccolo, qui est l'un des journalistes salariés en fait de Zélium. Qui est... Mais oui, enfin, on peut. Si tu as quelque chose à dire, Cesare, vas-y.
Bon,
c'est pas très compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de bon, déjà, il faut quelqu'un qui s'y connaisse en administration et qui sache gérer les choses et mettre en place. Nous, on a eu Maël, ce qui est quand même
parce que dans ce fait, on oublie de dire que c'est assez simple, mais c'est tous les gens de soit qui sont des journalistes, soit ils sont des chroniqueurs, soit des dessinateurs, ils ont tous un grand ego, une grande avis se mettre souvent un grand avis. À donner sur chaque chose, mais je ne vais pas dire pas envie de bosser, mais il faut quand même quelqu'un qui sache un peu coordonner, savoir ce que c'est payer un loyer, trouver une. Donner un cadre administratif aussi, donner aussi envie à tout le monde de bosser ensemble. Et il y a des moments magiques qui arrivent par-ci, par-là, mais ces moments magiques sont assez rares. Donc, bon, nous, on a eu un peu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir Maël qui s'occupait un peu de ça. Donc, c'était quand même pas mal. Voilà. Donc, bon, merci Maël. Et après, bon, c'est vrai qu'une fois que la machine est lancée, c'est beaucoup plus simple de la continuer. Bon, Maël vient de partir du journal, ça continue assez bien, mais on l'emmerde assez souvent, même régulièrement, pour qu'il continue à nous filer un coup de main. Donc c'est facile, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas facile forcément pour tout le monde. Voilà.
Alors comment on gère autant de dessinateurs ? Parce que...
Ça commence à... Bon, tu veux répondre, je te réponds. On se partage un peu les tâches. Ce n'est pas évident parce que en fait, beaucoup de monde est convaincu d'être un bon dessinateur, en tout cas un dessinateur. Donc, beaucoup de monde fait des dessins. Et il y a des dessins qui sont très bons, des dessins qui sont très moyens, des dessins qui sont vraiment à chier. Et c'est pas évident à dire à quelqu'un, écoute, ton dessin, il est à chier, par exemple. Ça, c'est juste un truc comme ça. Donc, c'est souvent un dessinateur qui s'occupe de la direction artistique. En tout cas, chez nous, ça a toujours été comme ça. Et même pour le dessinateur, ça pas toujours été facile. À La Mèche, ce n'était pas un dessinateur, mais une dessinatrice et un journaliste qui s'occupaient de ça, et ça a pu être saignant à des moments, parce que la limite entre un dessin qui ne te plaît pas, un dessin qui est... Et la censure, soi-disant, elle est toujours très, 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 très fine. C'est pas évident à trouver. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, faut gérer des égos, faut gérer des égos d'artistes, faut gérer des personnes. Ça marche énormément à l'affectif, parce qu'il y a aussi des contraintes matérielles. Il y a, dans le dernier numéro, celui-là, là, par exemple, j'ai eu un truc très simple, moi, personnellement. Il y a un tout petit dessin de Picotto, qui est là. Picotto, c'est un dessinateur qui est dessiné à Pilote, Métal Hurlant, aussi collaboré avec Henri Kiri, Charlie Mansuel et tout ça. Et il a fait un tout petit... Voilà, il a fait des dessins. C'est un dessin d'actualité. C'est un très bon ami. Et cette page a été maquettée en dernier. Donc, elle a été maquettée en dernier. La dernière page maquettée, c'est la page d'actualité. Donc, ça a été maquetté assez tard dans la nuit avant d'aller à l'imprimeur, quoi. Et tous les dessins sont assez petits. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a pas dit ? Ah, mais vous avez tué mon dessin. J'aurais préféré que vous ne mettiez pas plutôt que mettre si petit et tout ça. Moi, je n'étais pas de son avis. Et surtout, ça m'a surpris. Et ça, c'est un dessin qui a été publié parmi d'autres. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément prévues. Chacun a un regard sur son boulot. Ou alors, Gab, il a fait la dernière une. Et là, il y avait normalement une autre bulle. C'était bon, ça, en fait, c'est plusieurs mouches qui s'approchent d'un cul de vache et qui disent on déjeune ici. Là, il y avait une autre bulle, normalement, qui nous était arrivée. Ça disait non, il y a trop de monde, on va ailleurs. Bon, on trouvait que ça tuait son dessin, quoi. Et on lui a viré. Il était furieux. Après, il nous dit, bon, écoute, j'ai parlé avec ma femme. Elle dit que ça va. Donc, voilà.
Donc, comme quoi, le champ de la liberté d'expression est quand même très limité.
Voilà. Merci. Alors, moi, je voudrais juste dire une chose. C'est qu'en tant que dessinateur, en fait, il y a nous... Le dessin de presse, et on l'a dit, c'est faire un dessin pour la presse, donc il faut avoir une publication. On peut être le meilleur dessinateur de presse du monde de chez soi, si le dessin n'est pas publié dans un support qui va le mettre en valeur, ça ne sert à rien. Même si ça fait plaisir quand on le fait, parce que ça venge, disait Cabu, ça venge. Et il y a très peu de place pour le dessin de presse dans les supports, et il y a encore moins de place salariée. Il y en a quelques-unes, il y en a une à Marianne, il y en a quelques-unes au Canard Enchaîné. Et pour le reste, bien souvent, c'est hockey choral. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande page ou une double page ou cinq pages de dessins d'actu, et on dit aux dessinateurs, on boucle tel jour, envoyez vos dessins. Et ce qui arrive souvent, et qui est absolument terrible à vivre du point de vue du dessinateur, c'est t'envoies cinq dessins, et puis on ne te prévient pas, et quand le journal sort, tu vois si t'as un dessin ou pas. Et si t'as pas de dessin, t'es pas payé.
Et c'est le cumul qui est.
Ouais, alors après, ça se discute, quoi. Mais, en fait, j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue Pascal Gros qui dessine chez Marianne. Et en fait, on a la sensation, quand on participe à un journal où on n'est pas sûr d'être pris, c'est-à-dire qu'il faut être pertinent sur un sujet qui n'a pas été traité 20 fois par les autres, il faut être à son top niveau d'humour qu'on puisse produire. Et on a l'impression de chaque semaine remettre sa ceinture en jeu. Et c'est très usant nerveusement. Moi, quand je suis pas bon et que j'arrive pas à en placer ou pas autant que je veux, moi, je suis au fond du trou, quoi. Et puis quand j'en ai trois, ouais, on va boire de la bière. D'ailleurs, c'est bientôt là, François.
Oui, exactement. Donc, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, il y a un micro baladeur.
Bonsoir. Alors, vous deviez parler de l'avenir du dessin de presse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir du dessin de presse? Parce que ce qui ressort de manière un peu générale, comme ça, si on lit entre les lignes, c'est que vous n'avez pas l'air tous très optimistes. Donc, ma question un peu plus précisément, c'est est-ce que, et là, elle s'adresse entre autres à Soulcier, mais est-ce que le dessin de presse a besoin de la presse généraliste quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, et par là même, est-ce qu'elle a besoin du journalisme? C'est-à-dire, est-ce que... Et du coup, la deuxième question s'adresse plutôt à Malnolé, c'est-à-dire, est-ce que le dessin de presse peut aussi vivre tout seul? Est-ce que c'est possible de faire des fanzines où il n'y aurait presque que du dessin de presse? Enfin, c'est-à-dire que les dessinateurs ne seraient pas adossés à une rédaction purement journalistique? Et est-ce que le fanzina a un avenir aujourd'hui en France?
Bah, je peux répondre déjà sur cette deuxième partie. En France, il y a vraiment une très très grande richesse de la presse associative qui, la plupart du temps, régionale. Dans la région PACA, il y a le Ravi, il y a Fakir qui est devenu national, mais avant c'était du côté d'Amiens. Il y a beaucoup de feuilles comme ça qui sont implantées dans toutes les régions, et c'est aussi des supports où s'exercent bon nombre de dessinateurs et qui font leur classe souvent même dans cette presse-là. Donc il y a une vraie richesse en France du fanzine, même si quand on dit fanzine, il y a une petite connotation péjorative. Cette presse-là a vraiment une grande richesse, une grande importance. Et elle est présente un peu partout. Il y a la Brique aussi, à Lille par exemple. Donc après, je te laisse répondre pour l'autre partie de la question.
Je m'en souviens déjà plus. Alors oui, c'est sur l'avenir des dessins de presse. Avant, il y avait beaucoup plus de directeurs artistiques dans les journaux qui pouvaient faire un choix fort pour prendre un dessinateur dans le journal et le défendre s'il avait besoin de défendre son choix et lui dire on lui donne sa chance et on le garde quelques années. Comme pour la chanson, les chanteurs de cabaret avaient plusieurs cabarets le soir et pouvaient rester 2-3 ans le temps de faire fabriquer leur savoir-faire, quoi, arriver à maîtriser leur art. Et bon, maintenant, en général, comme les journaux vont mal, il y a des plans, et en général, le DA, c'est un des premiers postes qui saute. Et ce sont les rédacteurs-chefs ou les journalistes qui ont écrit les papiers, qui s'occupent des pages politiques, qui choisissent ces dessins. Alors, je ne suis pas très très optimiste, mais après moi je peux dire ce que j'aimerais comme avenir des centres de presse, c'est qu'au contraire il y en ait plus et que ce soit plus grand, parce que souvent effectivement quand c'est petit et on est obligé de simplifier comme sur Twitter, on est obligé de simplifier les dessins et simplifier l'idée et on se retrouve avec des dessins normés qui sont un peu toujours sur le même principe avec un surtitre, un bonhomme et une phrase. Et je pense que s'il y avait plus de place, on pourrait voir d'autres genres de dessins qui nous réjouiraient, peut-être un peu moins stéréotypés. Et ce qui est aussi, je pense qu'il faut que les rédactions défendent les dessinateurs. Parce qu'on en parlait, toi tu dis presse de province, mais c'est un peu péjoratif. On dit PQR, ce qui est beaucoup
presse
moins péjoratif.
Régionale.
Et PQR, ça sonne bien, non?
Ouais.
On dirait une marque, PQR.
PQ.
Et c'est le problème, c'est que quand le dessin de presse, le dessin d'humour, il est à propos de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Donc il est au détriment de quelqu'un, si j'ose dire. On rigole de quelque chose ou de quelqu'un. Donc il y aura toujours quelqu'un qui se sentira blessé. C'est un peu la course à la stigmatisation. Et le problème, c'est quand les gens écrivent au journal pour se plaindre des dessinateurs. Et les rédactions en chef, elles sont là, elles se disent « Ah, ça, c'est des gens mécontents de notre produit quand même. Mmh. » Et ils risquent de ne pas vouloir prendre le risque parce que c'est perte des lecteurs. Alors qu'au contraire, il faut défendre ça comme étant... Mais dans beaucoup de journaux, ça marche comme ça. Ils sont obligés d'être un petit peu nuancés dans leurs propos et ils servent de la place des dessins de presse pour dire « Allez, vas-y, carte blanche. » Et ça, c'est cool. Moi, à l'équipe, c'est comme ça. Dans les journaux, dans les articles qui sont un peu nuancés, ils ne peuvent pas trop dire de mal. Mais alors... Moi, si je veux me faire plaisir sur Nick Noah ou quoi, on peut y aller, quoi. Bon, c'est du sport.
Si je peux faire une remarque, tout le problème est de savoir si on veut faire du dessin ou si on veut en vivre. Et ça a toujours été un peu le problème des dessinateurs. Juste un chiffre. Le nombre de journalistes titulaires de cartes de presse depuis l'obligation d'avoir une carte de presse, depuis 1946, a été multiplié par 5,5. Le nombre de dessinateurs de presse n'a pas évolué depuis 1946. Donc il y a une place de plus en plus restreinte. Il y a une crise de la presse extrêmement forte, et notamment de la presse quotidienne. C'était la presse quotidienne qui, notamment, nourrissait le mieux les dessinateurs de presse, si je peux m'exprimer ainsi. Celle-là, elle est en train de disparaître. Donc je pense que la véritable question, c'est de négocier... le tournant du numérique, ce qui n'est pas sans poser de problème pour les dessinateurs.
Le tournant du numérique implique le paiement du travail du dessinateur. Si. Et pour l'instant, sur Internet, ça n'existe pas. Les gens ne payent pas pour le dessin. Mmh. Là, vous avez vu des dessins d'un site qui s'appelle Urtican, qui était un journal sur Internet. On n'a jamais trouvé la clientèle qui acceptait de payer... hebdomadairement.
Non, mais la question, si tu veux, c'est de savoir, parce que c'est fatal, lorsque les quotidiens seront tous dans un format numérique, mais pas un format numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, ouais. Sur un format numérique adapté, oui. Est-ce qu'il y aura une place pour le dessin ?
Plus facilement. Là, le Figaro publie des dessins sur Internet, alors que depuis la mort de Faisan, ils n'ont pas remplacé Faisan. Alors que sur Internet, ils ont trouvé la place pour un dessinateur, même s'il n'est pas payé. Quoi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Il y a un autre souci là-dessus. Voilà, c'était... Est-ce qu'il y a besoin d'un journal ? Oui, en tout cas, il y a besoin d'une rédaction. Parce que tu as fait l'exemple du Urtican. L'Urtican, il n'y a pas vraiment un choix rédactionnel. Il y a effectivement à boire et à manger. Il y a quand même besoin d'une qualité. Il y a besoin d'une une direction artistique, d'une coordination. S'il y a trois dessins sur le même sujet ou avec trois dessinateurs qui ont la même idée, en général, on va essayer de choisir la plus pertinente, ou alors de les mettre face à face, ou alors bien écarté, par exemple. Et il y a toujours besoin, effectivement, d'avancer groupé, parce qu'un dessinateur tout seul, effectivement, il peut avoir son blog, mais il sera beaucoup plus lu et beaucoup plus apprécié si ses dessins seront accompagnés d'autres dessins d'autres dessinataires, parce qu'il ne va pas faire pondre 15 dessins par jour, et quand il le fait, ils seront rarement très très bons, quoi. C'est, même les meilleurs dessinataires connaissent des meilleurs dessins, et d'autres qui sont un tout petit peu en dessous, quoi. Voilà. Et par rapport à ce que disait Sulcier, effectivement, il y a aussi une chose, cet espace des libertés est fondamental. Cet espace de liberté qu'a le dessin de presse, c'est vraiment fondamental. Le dessinateur, par rapport au journaliste, et là, tu vois, à toi, à l'équipe, tu as eu la chance de rencontrer des gens qui te disent « Oui, vas-y, nous, on ne peut pas y aller jusqu'au bout. » Moi, par ailleurs, je suis essentiellement journaliste à la base. Et j'adore me faire censurer.
mais la plupart des journalistes ne sont pas comme ça. En général, l'autocensure arrive toujours un peu en deçà des limites réelles. Donc, et c'est beaucoup plus facile et mieux de se faire censurer que de s'autocensurer, finalement. Au mieux, et voilà. Et ça, c'est, cet espace des libertés, il est vraiment précieux.
Il est précieux, mais se réduit de plus en plus. Enfin, c'est, il est, le problème du dessin de presse, c'est qu'il n'est pas reconnu comme un moyen d'expression à part entière. Donc il est obligé de cohabiter avec des rédactions, il est obligé de cohabiter avec des journalistes. Et en France, malheureusement, l'écrit est toujours, même Cabu, pour Charlie Hebdo, disait, un journal, enfin, il faut qu'il soit lu, il faut une heure et demie de lecture dans un journal. Donc si on met que des dessins, il sera trop vite lu. Donc il faut rajouter des textes, il faut... Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a aucun titre dans la presse, même le Canard enchaîné, le dessin sert d'illustration aux articles, d'accompagnement aux articles. Les dessinateurs n'ont même pas le choix de leurs dessins qui paraissent. C'est les rédacteurs qui choisissent les dessins. Donc, et tant que le dessin de presse ne sera pas reconnu comme un moyen d'expression à part entière dans des journaux créés par des dessinateurs, comme l'était avant Charlie... Charlie Hebdo, à la belle époque, chaque dessinateur avait sa page. Et il n'y avait aucune contrainte sur sa page. Cabu avait sa double page, Willem avait sa page, GB avait sa page, et chacun s'exprimait en tant qu'auteur. Et c'était un vrai journal, et qui se vendait à l'époque très très bien, et il y avait très peu de textes. Si vous voyez les Charlie Hebdo de l'époque, des années 70, il n'y avait que Cavana qui faisait son éditorial, Delfeuille de Ton, mais il y avait très peu de... Et ils ont réussi à laisser une empreinte très forte, aussi bien du dessin que de la presse satirique. C'était vraiment des vrais journaux. Je ne veux pas remonter au début du XXe siècle avec l'Assiette au beurre, qui est toujours le journal de référence, mais ça reste un journal de référence parce qu'il y avait des dessins pleines pages, sans texte, enfin pratiquement, quoi. Enfin, c'était la base du journal, c'était quand même la qualité du dessin. Et ça, on a perdu ça totalement.
Mais pour autant, l'Assiette au beurre, ça se vendait à 20 000, 30 000 exemplaires.
Oui, mais Charlie Hebdo, pareil. Charlie Hebdo, mais ça fait rien. Vaut mieux vendre à 20 000, 30 000 exemplaires et permettre à une rédaction d'exister. Les salaires de Charlie, ça permet à une trentaine de personnes de vivre quand même. Donc, c'est, même pour 20 000 personnes, 30 000 personnes, c'est pas. Mais au moins, le dessin est reconnu en tant que tel, en tant que moyen d'expression. Et les dessinateurs, du moment où ils sont payés pour pouvoir faire ce métier, ils s'expriment totalement, quoi. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, quoi.
Alors, c'est un peu pareil pour d'après moi, pour la photo et pour d'autres métiers créatifs. Il y a des choses que tu aimes bien faire et que tu n'es pas payé ou très mal payé, et des choses qui sont très très bien payées et qui sont parfois moins intéressantes. Et tout le but du jeu, c'est d'arriver à être payé pour ce que tu aimes bien faire. Mais c'est vrai que tu dis ça met 10-15 ans à arriver.
Bah, disons que l'époque, là, c'est faire des choses qui coûtent le moins cher possible, mais dans tous les domaines, que ce soit le cinéma, le spectacle, on essaie de rentabiliser vite.
Là où j'ai bon espoir pour la presse, c'est qu'il y a des journaux qui meurent et il y en a d'autres qui naissent et qui se refont sur des bonnes volontés. Regarde, par exemple, il y a le 1 qui sort et qui marche, je crois que ça marche pas mal.
Mais pareil, ils vendent très très peu, quoi. Enfin, c'est des petites niches, mais pourquoi pas ? De toute façon, vaut mieux avoir une petite niche à exister et faire vivre toute une équipe que de ne pas avoir de niche du tout. Enfin, c'est... Donc... On n'est pas obligé d'atteindre.
Vous avez dit que vous évoqueriez le parcours. C'était Soulcier, je pense, qui devait parler de ça. C'était dans le programme.
Vous êtes sûr que vous voulez faire ça maintenant?
Rapidement.
Rapidement.
Les parents.
Il y a quelques... Papa, maman. Il y a pas mal d'autodidactes dans le dessin de presse. Moi. Moi, j'ai fait 5 ans d'études en art appliqué. Donc, c'est le penchant appliqué des arts. Ce n'est pas les beaux-arts où on fait des choses belles. C'est plutôt la communication, le graphisme, l'illustration, le design, des choses comme ça. J'ai fait 5 ans de ça. Et en sortant, j'étais graphiste parce que c'est ce que j'avais appris à faire. Et j'avais fait l'illustration aussi. Et vous voyez, les gens partent. Ce n'est pas du tout le bon moment. Et au revoir. Et en sortant, moi, je voulais faire de la BD. C'est ça que je voulais faire. Je voulais faire de la BD. Et j'ai commencé à faire de la BD. Et la BD, c'est très, très lent. Parce que, en fait, quand on fait une planche, on refait 10 fois la même chose. C'est-à-dire qu'on cherche l'idée, on fait le crayonné, on fait l'esquisse, on fait l'ancrage, on gomme, on scanne et on recolorise. Si bien que chaque image, on l'a vu 8 fois. Et moi, ça me fatigue. Et donc, pendant que je faisais des BD, j'écoutais la radio et ça m'agaçait beaucoup ce que j'entendais à la radio. Et donc, je faisais des petits dessins énervés sur le côté. Et je les ai proposés. Et assez vite, beaucoup plus vite que pour la BD, la sauce a prise. Et j'en ai envoyé à CQFD. J'avais un copain qui travaille à Telerama.fr et Telerama.fr m'ont pris aussi. En fait, petit à petit, c'est ce qui m'a occupé le plus. J'ai quand même fait des BD. Parce qu'en plus, les BD, c'est décevant parce qu'on l'a fait pendant 1 an, ça sort, et le jour où ça sort, t'as l'impression que tu vas être papa, et personne n'en parle, et ça reste 2 semaines en tête de gondole, et après, on t'oublie. Sauf un site ou deux qui a fait une critique sur Internet, donc c'est très décevant. Alors que le dessin de presse, d'une part, quand tu le fais, ça venge. Quand c'est publié, que c'est réussi, ça fait rigoler les autres, et c'est banco. Et puis, par le hasard des choses, ça a bien marché. Je me suis fait plaisir, j'ai continué à chercher. Je continue de chercher encore, et je continue de me faire plaisir. Et voilà, et je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai un des meilleurs métiers du monde, quoi. Parce que le matin, je m'assieds à mon bureau et je cherche des blagues sur Hollande et Sarkozy, quoi. Voilà. Mais je le fais très sérieusement, c'est-à-dire c'est presque scientifique dans la rigueur.
Voilà, le parcours est fait. Mais c'est pratiquement tous les dessinateurs ont le même parcours, quoi. C'est dans la mesure où ils sont autodidactes. Et alors, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Voilà, il y en a qui ont plus de talent que d'autres aussi. Cabu a commencé à 16 ans et n'a jamais arrêté jusqu'à l'an dernier, quoi. C'est parce qu'il était doué. On l'a arrêté, oui, mais il aurait pu continuer encore plus longtemps. Voilà, les parcours des dessinateurs. Mais pour l'avenir, voilà, il y a des jeunes qui ont 30 ans, à peu près. Donc ça laisse de l'espoir. De toute façon, il y a plein de vieux qui vont peut-être partir et dégager. Là.
Oui. C'est à propos du poids que l'air du temps peut avoir sur les dessinateurs. Comme on l'a vu ce matin, on s'est aperçu que pour ce qui est des humoristes de scène, il y a beaucoup plus de procès qu'il n'y en avait du temps de Bedos, des proches et compagnie. Donc il semble que dans ce domaine-là, il y ait un poids de l'esprit du temps, hein, comme on dit, assez important, qui soit prête à l'autocensure, soit finalement exclue, hein, un certain nombre, ou ne donne pas la possibilité à certains humoristes de se produire. Pour ce qui concerne le dessin, vous avez l'air de dire que quand même, hein, ça devient de plus en plus restrictif. Et moi, j'ai bien connu Lou, et j'ai toujours comme référence les fameux dessins qu'il faisait avec Ciné et Cabu, dans Le droit de réponse, hein, ouais, de Michel Pollack. Et totalement librement, disait-il, il le faisait au fur et à mesure. Donc ils étaient dans un espace de liberté totale. Est-ce que vous imaginez que ça pourrait se faire maintenant?
Non.
Et est-ce que cette contrainte que vous ressentez, elle a des incidences sur une espèce d'autocensure, ou bien alors que finalement vous décidez que bon, bah, tant pis, comme ils ne prennent pas mes dessins, moi je continue à les faire, mais où est-ce que vous allez les publier? Parce que je me souviens que Lou me racontait qu'il avait eu aussi beaucoup de procès, donc il a publié à part les interdits de Lou, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas été pris ailleurs, et qui a même avait eu certains des procès, dont celui que j'ai montré ce matin sur Aïssa. Donc, quel est le poids, voilà, de l'esprit du temps que vous ressentez, et quelle incidence il a sur vos activités?
Qui répond. Mais je pense que c'est en tous les domaines pareil. Enfin, là, vous parlez d'une émission de droit de réponse, mais qui était quand même pilotée par Michel Pollack, qui était un libre penseur, quoi. Enfin, l'émission a été aussi arrêtée à cause des dessins, en partie à cause des dessins. Mais les dessins dérangeaient. Ils ont choisi le motif d'un dessin de Plantu et un dessin de Viaz pour arrêter l'émission. Mais voilà, et depuis, si vous regardez bien la télé, il n'y a pas eu d'autres expériences. Alors que la télé est un excellent support pour le dessin. Mais c'est trop dangereux, quoi. C'est trop, ça dérange trop, quoi. Ça dérange trop. Donc il faut, c'est pour ça que moi je plaide pour la création de nouveaux supports, que ce soit sur Internet ou sur papier, pour que les dessinateurs reprennent le pilotage de leur carrière, quoi. Enfin, c'est, y a pas d'autre issue. Il y a pas d'autre issue. Donc, mais il faut que ce soit les jeunes. Il faut que ce soit parce que les anciens, ils sont revenus de tout. Et voilà. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Voilà. Je pense qu'on va arrêter parce qu'on me fait des signes désespérés.
Non.
Pas désespéré. Bon ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Merci.
Merci beaucoup. Du coup, comme vous aviez pris un peu le pouvoir sur la scène, je n'avais même pas présenté François Forcadell, vous avez démarré le débat. Donc voilà, donc François Forcadell, un spécialiste du dessin de presse, voilà, qui a eu un parcours dans différentes revues. Donc merci à tous les quatre. Je voulais inviter juste Nelly pour vous dire un petit au revoir pour tous ceux qui ont suivi le colloque. Je crois qu'on est assez content du bilan général. Enfin, il faudra qu'on ait un peu de recul. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé de l'intérêt, du plaisir parfois, de la stimulation intellectuelle, de l'envie d'aller voir, de continuer à aller à des événements de ce genre aussi dans d'autres endroits. Parce que, par exemple, dans le public du colloque, on a eu plusieurs indices. Évidemment, c'est un sujet d'actualité, mais c'est aussi un sujet d'étude plus globalement. C'est ce qu'on a voulu montrer, que ce n'était pas juste lié à l'actualité. Et par exemple, les représentants de l'INHA étaient là, vont faire leur festival annuel, vont le faire sur l'humour. Le Collège des Bernardins, qui organise régulièrement des cycles de débats, va aussi prochainement faire une soirée là-dessus. Et ils sont venus aussi pour prendre de la matière, se nourrir intellectuellement des débats qui ont eu lieu ici. C'était aussi notre objectif. Donc voilà, on voulait vous remercier de votre attention, de votre concentration, de votre énergie. Et vous précisez aussi que tous les débats, une grande partie des débats ont été enregistrés en audiovisuel, ont été diffusés en direct sur Internet. Et ceux qui ne l'ont pas été en audiovisuel le seront disponibles en fichier son d'ici quelques jours après post-production. Voilà, donc, et puis je voulais surtout remercier tous ceux qui ont permis la réussite de ce colloque. En premier lieu, Nelly Kemener, la conseillère scientifique avec qui on a conçu le programme, et toute l'équipe de la régie, parce que ça a été un travail énorme pendant les deux jours qu'on a suivis. Voilà, pour à la fois la préparation et la réalisation de cet événement. Et puis, j'en profite pour nommer aussi les collègues de la bibliothèque, puisqu'on a réalisé pas mal de choses en termes bibliographiques autour du colloque. Même tous les services administratifs, juridiques, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais il y a toute une petite industrie derrière qui se met en place pour la réalisation de l'opération. Voilà, en tout cas, moi j'ai été aussi personnellement ravie de pouvoir préparer ce colloque, et je vous donne rendez-vous pour les prochains événements. Dans le format un peu colloque, et puis avec cette dimension où on veut mélanger les approches artistiques, professionnelles et scientifiques, le prochain événement qui sera un peu de ce genre aura lieu à la fin février sur les séries télé. C'est un autre sujet, mais sur les séries télé en Amérique latine, le 29 février. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous. Et puis on poursuit les cycles habituels autour des relations internationales, notamment pour un peu aider à décrypter certains enjeux géopolitiques. Le prochain a lieu le 25 février, sera justement sur la géopolitique du sport. On en a parlé indirectement tout à l'heure. Et voilà, et puis je vous invite à regarder l'agenda sur le site de la BPI, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses de notre côté. Voilà, bonne soirée à tous et merci encore.